Salut à tous et bienvenue pour notre podcast hebdomadaire super physique. Je suis avec le magnifique, le sulfureux, le roux, le William Carnimola de super physique, Julien Vénesson.
Bonjour à tous et moi je suis avec le musclé, le séduisant, le célibataire, Rudy Koya.
Bah, je croyais que tu voulais pas animer.
Bah non, mais il faut bien que tu le présentes, alors je m'en occupe.
Donc Julien, auteur du livre La nutrition de la force et l'assiette de la force, donc disponible sur Amazon.
Et gluten, comment le blé moderne nous intoxique.
Bientôt en vente.
Ouais.
T'as une date de sortie exacte?
Le 20 juin.
Le 20 juin. Est-ce que mon exemplaire a été envoyé?
Non, le tien coûtera deux fois plus cher.
Ah merde. Bon, je sais pas si je vais le lire.
Ouais.
Bon, bah on va attaquer directement parce qu'on n'a pas d'actualité cette semaine. Chose assez rare, on n'a rien... Julien était dans son monde, moi j'étais sur Krypton, donc forcément... On n'a rien vu de ce qui se passait sur Terre. Donc Julien, première question pour toi. L'alimentation épicée a-t-elle un impact sur les muscles ou des conséquences négatives niveau santé?
Alors, sur les muscles, ça doit être... je réfléchis parce que des épices, le problème c'est que les épices, il y en a beaucoup.
Il y en a certaines qui sont anti-inflammatoires.
Oui, alors là, c'est plus sur la santé, mais je réfléchissais concernant la prise de masse musculaire. Je vais retrouver ça, parce que... Bon, a priori, pour les muscles, je vois pas de trucs miraculeux. Je pense que le curcuma doit être intéressant quand même pour la récupération après un entraînement. C'est une épice, comme t'expliques, qui agit au niveau de l'inflammation de manière assez particulière. Mais le problème du curcuma en tant qu'épice classique, c'est-à-dire pas en tant que complément alimentaire, elle est assez mal absorbée. Donc on a assez peu d'effets globalement.
Donc faudrait la prendre en supplément?
En supplément, oui, mais il y a certaines formes de curcuma qui sont plus biodisponibles que d'autres. Donc c'est en France, c'est très très difficile de trouver du très bon.
Vous pouvez donner des exemples de formes qui sont bien biodisponibles?
Bah oui, il y a les formes sous forme de phospholipides et sous forme de nanoparticules, mais c'est des produits qu'on trouve pas ou presque pas en France, enfin je connais pas.
Et qui coûtent très cher à importer ou?
Bah oui, ça coûte un petit peu plus cher voilà, mais bon, ça reste intéressant. Mais bon, c'est plus pour la santé hein. Après, globalement, ce qu'il faut savoir des épices, bah déjà, c'est intéressant pour le goût. Elles vont avoir certaines vertus, effectivement, mais qui sont pas forcément, anti-inflammatoires. Ça peut être anti-infectieux, donc ça peut avoir des vertus pour différents problèmes de santé. Ça peut aider à respirer quand on est enrhumé, par exemple. Voilà, un petit peu comme les plantes, comme certaines plantes. Donc ça, c'est intéressant. Puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des épices qui sont pas très bonnes pour la santé du système digestif, donc pour l'intestin, parce qu'elles augmentent la perméabilité intestinale. Donc ces épices-là, si on a un intestin fragile, que ce soit simplement parce qu'on est fragile tout court, ou alors parce qu'on a une maladie du type maladie auto-immune ou maladie inflammatoire de l'intestin, il va falloir essayer d'éviter ces épices-là. Alors au pif, on peut citer déjà le piment, tout le monde sait que c'est assez agressif. Le poivre, en particulier de cayenne, et le paprika. Et il y a probablement aussi d'autres épices qui ont un effet néfaste sur l'intestin, mais on les connaît pas encore toutes très bien du point de vue de cette action. Donc, si on a une maladie intestinale, il vaut mieux pas trop abuser des épices. Voilà. Sinon, pour les autres, bah, c'est plutôt pas mal. Ça permet quand même des épices, ça peut transformer un plat. Le rendre vraiment très très bon, alors qu'au départ il était assez basique et simple, quoi. Donc c'est un bon atout dans la cuisine du culturiste. Hein. Ça répond à la question, Rudy?
Oui, ouais, pour moi ça répond. Je vais attendre de voir si tu continuais ou pas.
Non, non, bah là, à peu près tout. Hein.
Bon, bah. Donc, Julien, en tant que fin gourmet et co-auteur de l'assiette de la force, nous conseille donc les épices pour le goût.
Bah, moi j'aime bien le curry, hein.
Moi aussi, j'aime bien le curry, mais tu vois, il est pourri. Alors, tu dois avoir un bon épicier, parce que moi, j'achète des trucs que...
Fou, hein. Et il faut dire que toi, on te voit venir de loin, on se dit, ah, celui-là, c'est un pigeon. on va lui vendre le vieux curry. Non, bah tiens, on peut donner une idée de recette rapide. On peut se faire du poulet, du blanc de poulet avec du lait de coco et du curry, par exemple, c'est très bon ça. Avec un peu de riz et puis des légumes, c'est super bon.
Je pense que tu devrais faire MasterChef.
Non, je pense pas que. Je pense pas, mais voilà une bonne utilisation.
Alors, question d'entraînement. Comment réorganiser sa séance quand on stagne ou régresse sur un exercice mais pas sur les autres? La réponse est assez simple, en fait, il suffit de virer cet exercice, tout simplement, et de le remplacer. Donc, allez, on va prendre un exemple. Un exemple qui frappe beaucoup de personnes. Donc, je fais une séance de pec, je fais une séance basique, développé couché, développé incliné, écarté, décliné. Le développé couché ne monte plus, mon incliné et mes écartés continuent de progresser. Eh bien, je vire le développé couché avec barre. Et donc, je commence ma séance par l'incliné, ce qui permet en plus de redonner une petite marge de progression. Je continue par les écartés, et après, je change, j'ajoute un dernier exercice au choix, à voir, suivant ce que vous voulez. Donc, ça peut être un développé couché avec halter, ça peut être des dips, prise large. Les possibilités et variantes sont assez infinies. Donc voilà, il suffit juste de virer l'exercice. Comme j'aime bien le rappeler, aucun exercice n'est indispensable. Et vous ne mourrez pas, donc là, sur l'exemple, si vous ne faites pas de développé couché. Si vous progressez ailleurs. Donc voilà. Je pense que ça répond à la question, Julien.
Oui, tout à fait. J'ai rien écouté, mais ça répond parfaitement à la question.
C'est bien ce que je pensais.
je l'ai dit avant que
tu dises. Petite aparté, Julien, as-tu été au Giga Gym?
Au Giga Gym, non, pas encore.
Qu'est-ce que tu attends pour aller t'entraîner là-bas?
J'ai beaucoup de travail en ce moment.
On m'a dit qu'il y avait une foule de fans qui t'attendaient dehors. Qui attendaient que tu t'entraînes et malheureusement tu n'y es pas.
Non, je suis timide et j'ai peur des fans.
J'ai peur des fans. Alors, Julien, question pour toi au lieu de taper sur le clavier.
Oui.
Quel est ton avis sur le peptan? Donc on va dire rappeler ce qu'est le peptan. Julien?
Oui, je pensais que t'allais le rappeler, Rudy.
C'est un hydrolysat de collagène.
Tu vois.
J'ai dit parce que j'en prends, donc je vais donner mon avis après, mais je voulais l'avis du spécialiste d'abord.
C'est bien. Oui, donc c'est un hydrolysat de collagène. Qu'est-ce que c'est qu'un hydrolysat de collagène? Un hydrolysat, c'est le même principe que pour les protéines. L'hydrolyse, c'est une opération qui consiste à découper en petits morceaux quelque chose qui avait une grande taille. Donc le collagène, c'est une molécule de grande taille. Pour pouvoir permettre de mieux le digérer, on a fait des hydrolysats de collagène, donc on découpe le collagène en petits morceaux et ça permet de mieux l'absorber. Le collagène, donc les vendeurs de collagène disent que en mangeant du collagène provenant d'un autre être vivant, donc en général c'est des collagènes issus du bœuf, donc comme c'est une substance qu'on trouve au niveau des articulations notamment, mais pas uniquement, on va donc de fait avoir un effet bénéfique sur les problèmes articulaires, etc. Il y a eu des études sur ce genre de produits, et c'est vrai que ça fonctionne, mais en fait c'est pas tant le fait que ce soit issu du bœuf, c'est principalement le fait que c'est assez riche en lysine et en proline qui sont utilisées pour synthétiser du collagène. Donc pour les végétariens, par exemple, ou les végétaliens qui veulent pas prendre ce genre de produits, ils peuvent prendre de la lysine et de la proline avec de la vitamine C, par exemple. Et ça sera peut-être aussi bien, voire mieux.
On parlait à un moment de l'hydroxyproline plutôt que la proline.
Oui, c'est pareil. Oui, enfin, c'est pas pareil, mais effectivement, l'hydroxyproline est un peu plus intéressante parce que c'est ce qui est le plus utilisé pour synthétiser le collagène. Mais de toute façon, la proline peut donner... Oui, c'est assez intéressant. Après, je pense qu'il faut essayer un petit peu de pas en attendre de miracles non plus, dans le sens où ce qui est toujours le plus important, on le dit à chaque fois, mais pour les blessures et les douleurs, ce qui est le plus important, c'est l'entraînement. S'entraîner correctement, ne pas utiliser des charges trop lourdes, trop longtemps. Je pense que ça, c'est plus important que les compléments. Après, dans les compléments, à mon sens, l'hydrolysat de collagène... Il en existe d'ailleurs tiré du poisson, Je pense que c'est mieux
que tirer. Là, le peptan, c'est un hydrolysat de collagène bio quand même.
Bio?
Ouais.
Ah ouais?
Bon. Je sais pas si t'as vu, mais c'est bio parce que j'en ai un pot chez moi, alors je peux le dire, c'est bio, c'est pour ça que j'en ai acheté.
Écoute. C'est bio, alors c'est peut-être pas mal, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est mieux que du collagène bas de gamme. Et voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Rudy, à l'utilisation? Moi, je n'en utilise pas, personnellement.
Moi, je prends un premier tout ce qui existe pour durer le plus longtemps possible. Donc, j'essaye depuis qu'elle, j'essaye un peu de temps. Je vais en prendre tout le temps maintenant, mais, je sens rien de différent. Je sens rien, mais bon, après, ça fait 2 mois. Mais bon, après, si c'est comme tous les suppléments santé ou pour les articulations et on parle d'un effet à long terme, du style ça va moins vite dégénérer, etc. Bon, on va continuer, mais bon. Si on attend, ouais, effectivement, si on attend un effet miracle ou de ressentir un effet, je suis pas sûr que vous soyez content vu que je ne ressens absolument rien.
Faut quand même savoir que les problèmes articulaires, que ce soit chez la personne jeune et sportive comme toi, par exemple, ou des auditeurs, ou chez les personnes plus âgées, qui ont par exemple de l'arthrose, ça représente une frange de la population qui est tout à fait énorme. Donc en termes de business, les vendeurs de compléments, ils ont bien compris le truc. Donc ils ont toujours un nouveau produit miracle à sortir pour résoudre tous les problèmes. Bon, si tout ça marchait si bien, plus personne aurait d'arthrose et plus personne aurait de problèmes articulaires. Donc effectivement, faut essayer de mettre les choses un petit peu en perspective. Ça peut représenter une bonne aide, mais voilà, ça traitera pas la cause du problème de toute façon. Et puis ça peut être bien pour.
Non, mais c'est un petit plus à rajouter à son arsenal de suppléments pour les articulations si vous avez le budget.
Oui, voilà, ou pour. Moi, je vois plus le Peptan pour accélérer la récupération après une blessure articulaire, par exemple. Là, je pense que ça sera vraiment efficace.
Ah bon, donc un avis plutôt favorable de Superphysique sur le Peptan.
Oui. Je suis facilement négatif, mais c'est quand même pas non plus le pire des produits. Hein.
Oh, mais... Sans question, tu dérives.
Mais non, moi, je recommande pas les compléments alimentaires à tout prix. Hein. C'est bien d'en prendre quand on en a besoin et quand c'est vraiment utile. Et pour moi, les compléments articulaires, c'est pas forcément indispensable.
Heureusement que t'es pas vendeur de suppléments.
Hein. Au moins, on pourra pas m'accuser de. Si c'est un produit vraiment bien, je vais le conseiller, mais. Voilà, comme je te dis, le Peptan, je pense qu'après une blessure, par exemple, pour récupérer, ça va être vraiment bien. Après, pour de la prévention, ça va être très très limité comme effet.
Question suivante. Entraînement. Comment peut-on, donc c'est un de mes élèves qui me pose la question, comment peut-on, lors de ce régime, perdre un peu de muscle tout en progressant sur nos charges? En plus du fait qu'on mange moins, on a donc moins de ressources énergétiques? Non. Donc, au régime, c'est vrai que j'arrive à faire progresser, ou même vous, je sais pas, j'arrive à faire progresser en série, en répétition ou en charge sur la plupart des exercices. Après, il y a certains exercices dont on a déjà parlé qui ne progressent pas, qui régressent. On arrive tout juste à tenir les poids, comme le développé couché, développé incliné, donc tous les exercices de développé pâtissent un peu du régime. Et c'est vrai que tous les autres, malgré la fatigue, même si on sent que les poids sont un peu plus lourds, on est fatigué, qu'on est moins explosif, etc. Ça continue de progresser. Donc, je vois bien la question de Guigui. Mais j'ai pas vraiment de réponse exacte à donner, mais c'est vrai qu'on arrive à progresser. Alors, premier point, on perd du muscle. Ça dépend jusqu'où on sèche. Quand on est au début du régime, on perd pas vraiment. C'est vraiment à la fin qu'on cherche vraiment à être ultra sec. Donc là, ça fait longtemps que j'ai pas cherché à être ultra sec, donc je me souviens plus comment c'était en 2007 quand j'avais vraiment séché. Mais tant qu'on cherche pas à être ultra sec, je pense pas qu'on perde du muscle, tant qu'on progresse à l'entraînement. Ce qu'il y a, c'est que visuellement, on est moins gonflé, forcément parce qu'on a moins de réserve énergétique, donc moins de glycogène. Donc on est un peu à plat, suivant combien on mange de glucides par jour. Donc ça peut donner une impression d'avoir perdu du muscle, mais c'est pas vraiment le cas, c'est juste qu'on a moins de réserve. Et dès qu'on va remanger, ça va regonfler petit à petit, ni vu ni connu. Donc ça m'arrive assez régulièrement quand je fais des petits régimes et puis que je remange après. Je reste au même poids et puis d'un coup ça regonfle un petit peu au bout de 2-3 semaines le volume est revenu donc j'avais pas perdu de muscle forcément sinon ça revient pas comme ça donc après je pense que dans un régime ultra sévère donc c'est vrai que j'ai plus cette mémoire mais si vraiment le régime est ultra sévère qu'on est à zéro glucide etc je pense que là pour progresser sur tous les exercices ça devient vraiment très très dur Et là, je pense que oui, on perd du muscle. Et celui qui a progressé en même temps est très très fort. Mais
oui.
Tu veux compléter, Julien ?
Non, non, bah, je suis d'accord avec la dernière phrase. Là.
Merci de ton approbation, Julien.
Je t'en prie, Rudy.
Donc, je vais continuer avec la question d'éthique et santé. Pareil, c'est Guigui qui la pose. Donc, Guigui est sujet à pas mal de blessures. Donc, si je me souviens, il y a quelques calcifications. Donc, sa question est... Donc, malheureusement, la réponse ne va pas te convenir, Guigui. Si on a tendance à faire une tendinite sur un exercice, le régime de sèche ne rend-il pas la blessure plus probable ? On fait quoi alors ? Julien ?
Tu peux relire la question ?
Enfin, il a pas écouté le second. Oh,
si on a tendance à faire une tendinite sur un exercice, le régime de sèche ne rend-il pas la blessure ? Mais pourquoi est-ce que c'est une question diététique, ça ?
Bah, c'est entre deux. Bah oui, c'est une question... c'est toi le spécialiste de l'inflammation.
Le spécialiste de l'inflammation. Donc, alors, si on a tendance à faire une tendinite, le régime de sèche ne rend-il pas la blessure plus probable ? Bah oui, évidemment. Hein. On en a déjà parlé. C'est logique. Prenons un exemple caricatural. Par exemple, quand on fait un régime, on catabolise, c'est-à-dire qu'on perd de la masse graisseuse, de la masse musculaire, pour fournir de l'énergie. Hein, c'est ça le catabolisme. Si on continue le régime, bah forcément, on peut pas en même temps perdre du poids et gagner du poids. Donc voilà. Si on prend un autre exemple, quelqu'un qui a été opéré à l'hôpital, par exemple, qui a eu une opération de la jambe avec une grosse opération, et puis il a une grosse cicatrice qui doit se refermer. S'il est en déficit calorique important. Son corps n'a plus l'énergie pour pouvoir recréer ce tissu puisqu'il est en catabolisme. Et recréer du tissu, c'est être en anabolisme. Donc nécessairement, quand on est dans une période de régime, on est beaucoup plus propice à avoir des blessures et des problèmes parce que dès qu'on va un petit peu s'abîmer au niveau articulaire, s'abîmer quelque part, le corps n'aura plus les capacités de réparer ce qui a été abîmé. C'est ce qui explique qu'on voit tous, quand on fait un régime, ben, on se blesse plus facilement. Alors c'est valable pour tous les problèmes et la tendinite n'y fait pas exception. Donc effectivement, le régime et les problèmes de ce type-là ne font pas bon ménage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si on a une tendinite et qu'on commence un régime ? Bah, il faut absolument éviter tous les mouvements qui sollicitent la douleur tendineuse, parce que sinon ça va pas accélérer la guérison. Quoi. Et puis si le régime n'est pas vraiment indispensable, à la rigueur, mieux vaut l'arrêter. Hein.
Oui, mais quand on a une tendinite qui part pas, comment on fait ? Parce que Guigui, il est vraiment sujet...
Ah bon, j'ai cru que tu prenais ton exemple personnel.
Bah aussi, mais Guigui, il a encore plus. Hein. Guigui, il a pas de bol.
Ah, c'est un de tes élèves ?
Ouais, ouais.
Ah d'accord. Comment faire ? Bah, le problème, c'est qu'il y a pas grand-chose à faire. Il faut essayer de stimuler la régénération du tendon. Donc, premièrement... Ça va consister une tendinite où exactement, Rudy ?
Ah bah là, il y en a partout. Attends, faut que je retrouve le mail.
Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce podcast ?
Ah bah je me souviens pas de tout.
Même pas préparé.
Même pas préparé.
Oh, les auditeurs raccrochés, hein, parce que là, y a pas le niveau, hein. Y a pas les moyens à super physique.
Donc j'avais noté, Guigui s'est fait opérer des coudes pour calcification.
D'accord.
Et il a un tendon qui calcifie à l'épaule. Je crois que c'est le sus-épineux.
Ah merde. Bon, il se calcifie toujours ou
Bah ouais, il y a un tendon qui se calcifie là.
Ah ouais. Bon, si c'était moi, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire des prescriptions, hein. Si c'était moi, je prendrais de la vitamine K2, je prendrais de la vitamine D, j'éviterais tous les compléments alimentaires de calcium et les produits riches en calcium, et ensuite j'essaierais d'entraîner autour de la zone douloureuse. En faisant un mouvement antagoniste. Donc Rudy, qui connaît bien ton élève, il a mal quand il fait quoi comme mouvement ?
Ouais, je m'en pose beaucoup. Là. Il faut que je prenne genre toutes mes notes.
Donc par exemple, prenons un exemple. Hein, quelqu'un qui a mal au coude ou au niveau de l'épaule, par exemple, en faisant du développé couché. Si quand il fait du tirage, il a pas mal à cet endroit-là, Eh ben, c'est très bien. Dans ce cas-là, on va lui conseiller de faire pas mal de tirages avec des charges pas trop lourdes, plutôt des séries de 20 par exemple, qui vont solliciter un peu la brûlure. La brûlure, ça va permettre un peu de libérer de l'hormone de croissance locale qui va stimuler un peu la régénération des tendons. Donc c'est intéressant de faire ça au niveau de l'entraînement, surtout pas de charges trop lourdes. Et surtout, faut pas ressentir la douleur à l'exercice. Si on sent la douleur, c'est qu'il y a inflammation qui se met en, qui s'active. Si l'inflammation est active, il peut pas de toute façon y avoir de guérison. Donc quand on a constamment mal à un tendon, prendre des anti-inflammatoires, c'est plutôt une bonne idée. Par contre, si on a mal que dans certaines positions, il faut simplement arrêter de faire le mouvement ou la position qui donne mal, le temps que ça disparaisse. Et pour accélérer les choses, essayer de travailler le tendon, on va dire, enfin tout ce qui est autour, mais dans d'autres mouvements. Voilà. Est-ce que c'est clair, Rudy ?
C'est clair. Donc j'en profite pour rebondir sur une question qui n'était pas prévue et dont on n'a jamais parlé. Qu'est-ce que la vitamine K2, Julien ?
Là, c'est une vitamine, comme son nom l'indique.
Ah bon ?
Oui. Qui intervient dans pas mal de choses, notamment dans la coagulation du sang et aussi dans le métabolisme du calcium. Et elle aurait des vertus anti-calcification, justement. Donc, intéressant.
Donc, on en trouve en supplément, j'imagine.
Oui, on en trouve en supplément.
Quelles sont les doses conseillées, Julien ?
Ah bah là... Moi, je conseillerais plutôt de prendre la vitamine K2 MK7, comme on dit.
Qu'est-ce que c'est ça?
C'est une forme de vitamine K2 parce qu'il y en a plusieurs. Et puis là, les doses, honnêtement, j'ai pas du tout les doses en tête, mais dans mes souvenirs, les compléments qui existaient étaient dosés correctement pour la santé, on va dire, au quotidien. Donc, je prendrais la dose indiquée sur la boîte tous les jours, quoi.
Eh bien, je pense que je vais en acheter. En prévention, ça marche aussi.
Oui, bien sûr, mais par contre, ça, c'est des trucs qui agissent pas vite. Hein.
Oula. Ah, parfait.
Je sais pas si t'as entendu un bruit bizarre, non ?
Ouais, il flotte.
Ouais.
Julien habite dans un grenier, je crois. Julien non. Habite dans une tente.
Akuma, là, il est pas rassuré, hein.
Ouais, je disais, c'est quoi ce bruit bizarre ?
Je me suis posé la question aussi. Bon bref, oui, la vitamine K, enfin ce genre de choses là, faut pas attendre une amélioration en 2 semaines. Hein. La vitamine K, faut la prendre sur plusieurs mois hein, pour espérer voir.
Non, mais c'est encore un petit truc en plus.
Ouais, c'est bien, ouais. Mais j'éviterai vraiment de manger beaucoup de calcium hein, aussi. Parce que quand on mange trop de calcium, qu'est-ce qui se passe ? Il faut bien que ce calcium, si on n'en a pas besoin, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc le corps va chercher à l'éliminer. Donc il y a une bonne partie qui va passer au niveau des reins. Donc ça déjà, ça va augmenter le risque de calcul rénal. Et puis aussi, il peut y avoir du calcium qui va se stocker dans l'organisme, en particulier si on manque de vitamine D et de vitamine K, qui sont les deux régulateurs importants du calcium dans le corps humain. J'ai un article sur mon site, bon là le site fonctionne pas tout de suite, mais d'ici que le podcast soit en ligne, probablement ça devrait être bon, que j'ai fait sur mon site, sur les besoins en calcium, avec des données de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui vous donneront des informations très intéressantes sur la vérité concernant les vrais besoins en calcium chez l'homme adulte.
Merci Julien.
Je t'en prie Rudy.
Alors, dernière question de ce soir, entraînement. Donc j'avais déjà répondu à travers d'un article. Donc peut-on mêler les powerlifting et culturisme, ou plutôt peut-on faire du power et garder un minimum d'objectifs physiques? Alors peut-on mêler powerlifting et culturisme? La réponse est ça dépend du niveau. Donc si vous débutez, c'est évidemment possible parce qu'au départ faut évidemment construire une base musculaire qui va être nécessaire pour avoir un certain potentiel en force. Et malheureusement plus on avance dans le powerlifting, moins on va pouvoir se consacrer et moins on va devoir se consacrer au culturisme, donc à la prise de muscle. Plus il va falloir s'entraîner dans un but de prise de force. Donc d'ailleurs, il y a un petit article qui va sortir fin de semaine ou début de semaine prochaine sur le Westside que je viens de finir après avoir lu le bouquin du Westside, 237 pages en anglais. Ça m'a bien pris la tête. Mais au moins, il y a un bon résumé maintenant. Il sera sur le site. Donc voilà, donc plus votre niveau est élevé, moins vous allez pouvoir concilier les deux. C'est sûr que, dans un exemple très simple, hein, vous faites du culturisme, vous voulez des triceps énormes, et ben vous faites des extensions nuque, du magic triceps, de la poulie comme un malade, des courbatures de fou aux triceps. Sauf que quand vous arrivez au développé couché, bah forcément, les triceps sont cramés, ils n'ont pas récupéré, donc bah, les pertes ne montent pas au couché. Alors que si vous faites du power et que le but c'est que le couché monte, bah, vous allez éviter de faire des triceps pour faire des triceps, et ça va plutôt être dans un but de progression au développé couché, donc ça va être par exemple du couché serré, ou du développé couché avec une cale, ou du développé couché au sol, etc. Donc des exercices qui vont travailler les triceps, mais dans un but de progression au développé couché. Donc ça, j'avais bien résumé ça dans l'article « Muscles et forces ». Donc après, peut-on faire du power et garder un minimum d'objectifs physiques ? Donc il faut bien voir qu'au niveau, niveau français, puisque je vois bien ce qu'il en est, toutes les catégories qui sont jusqu'à moins de 93 kilos en général, les mecs physiquement sont quand même vraiment, vraiment bien, quoi. En général, c'est assez corrélé force et physique. Même s'ils font des séries très très courtes, ça reste quand même assez corrélé. Donc après, malheureusement, plus on monte en catégorie, et moins on peut avoir un objectif physique, puisque après, ça devient plus possible de faire, par exemple, taille plus 30 en étant assez sec, ou taille plus 40 quand on voit les catégories, par exemple, plus de 120, où les mecs pour 1m80, forcément, il n'y a plus d'objectif physique. Mais tant que vous êtes dans une petite catégorie, entre guillemets, hein, parce que 93 kg, c'est pas une petite catégorie, ni 83, il est possible de garder un minimum d'objectifs physiques. Mais, avec ce que je disais tout à l'heure, en gardant à l'esprit que, de toute façon, il va falloir s'entraîner pour l'un ou pour l'autre, et concilier les deux va être... vous allez pouvoir être moyen dans les deux si vous voulez, mais vous n'allez pas pouvoir être au mieux de votre potentiel en force et au mieux de votre potentiel en culturisme en même temps. Il va falloir faire forcément un choix. Donc j'avais bien résumé ça, et là, ce sera encore bien résumé dans l'article du Westside, où on voit vraiment l'entraînement du power type avec des séances techniques, vitesse et avec du travail. Donc un des exemples que donne le Westside par exemple, c'est pour renforcer ses ischios jambiers, c'est qu'on va pas faire comme on voit d'habitude dans tous les programmes comme en bodybuilding, faire du leg curl, parce que ça n'a aucun intérêt pour le squat ou pour progresser au soulevé de terre. On va plutôt faire des extensions au bras lombaire ou des extensions inversées, quelque chose qui travaille les ischios dans la même fonction qu'ils vont avoir quand on va faire du squat ou du soulevé de terre. Donc voilà, on voit encore une fois que c'est pas tout à fait le même entraînement, même si par période, si on fait du power, on peut essayer de faire un peu de culturisme hors saison pour se renforcer et essayer de créer un nouveau potentiel, si jamais, si vous n'êtes pas encore au bout de votre progression ou presque. Donc voilà, je pense que ça répond à la question. Julien, je suis sûr que tu m'as pas écouté.
Si, alors là, je ne fais que ça.
Je t'ai entendu, t'avais sur le clavier, ça gonfle.
Oh, c'est une impression. Tu manques de quelque chose, d'une vitamine.
Bah, je vais acheter de la vitamine K2, justement. Je suis en train de regarder en même temps. J'ai ouvert des pages pour commander. Donc voilà, donc on a fini pour ce soir. Donc on espère avoir encore une fois pas mal de questions de votre part. Donc à mettre sur le forum. Super physique, rubrique entraînement, donc il y a un petit topic en haut, donc vous marquez toutes vos questions, et donc on se fait un plaisir d'y répondre avec Julien. On rigole bien, même si Julien n'est pas très joyeux.
Pourquoi ?
Et a peur de la pluie.
Ah !
Mais on s'amuse bien, donc n'hésitez pas, et puis comme d'habitude, bonne écoute à tous, et à plus sur Super Physique.
À bientôt !